Luc Templier, vous avez été conservateur de musée, mais
oui.
Vous êtes aussi écrivain, calligraphe. Vous avez aussi fondé une maison de publicité il y a quelques
oui.
années. Bref, une existence avec plusieurs étapes. Quel est le fil rouge de tout ce parcours?
Oh, c'est l'art. C'est petit déjà cet intérêt pour l'art et qui n'a cessé depuis de nourrir ma vie. Voilà. L'homme, moi je dis souvent, l'homme c'est celui qui transforme en homme tout ce qu'il mange, des carottes, du poisson, de la viande, mais aussi tout ce qu'il regarde, tout ce qu'il lit, c'est toutes ces nourritures-là. Et depuis que je suis enfant, je me nourris de comme cela, avec de l'art. Et l'art est une immense consolation dans ma vie. Moi, il suffit que je ne sois moins bien, par exemple, bien, je feuillette un livre d'un sculpteur que j'aime, que j'adore, et je suis tout de suite consolé. Et donc c'est l'art qui a été le fil rouge de ma vie. Donc j'ai fait des études de lettres et arts plastiques à la Sorbonne, à Paris. Puis j'ai immigré à Liège, en Belgique. Là, j'ai fondé une troupe de théâtre pendant 10 ans. J'ai été comédien, metteur en scène. Et puis, oui, effectivement, des vies de cycle comme cela. Donc après, j'ai été pendant 10 ans, j'ai fondé une agence de publicité. Mais l'art était derrière, là, encore. Puis après cette agence de publicité, j'ai pris en charge un musée qui était moribond, pratiquement fermé, dans une ville moyenne de Belgique, au sud de Namur, à Marche-en-Famenne. Et j'ai recréé les collections de ce musée avec des richesses qu'il possédait déjà et d'autres que je suis allé chercher. Et notamment des sculpteurs d'un anonyme, de 1500, que l'on appelait le maître de Wara.
Et qui est le titre de votre dernier roman.
Voilà.
Pour lequel vous avez eu un prix, le prix Godefroy.
C'est ça.
Racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre?
Je cherchais un roman dans lequel je pouvais mettre des thématiques que j'avais déjà abordées avec d'autres livres, qui étaient plus des livres un peu de développement personnel, je vais dire. J'avais fait un livre qui s'appelle 52 méditations pour vivre, qui sont des clés de vie. Et je voulais glisser ça dans un roman, sans être donneur de leçons. C'est pas facile, ça. Et donc, je me suis dit que la meilleure façon de faire ça, c'était de créer une distance et donc situer l'action dans le passé, plutôt que de nous servir des personnages qui nous ressembleraient trop dans un monde désenchanté et toujours remuer la même boue. Donc voilà. Et j'avais dans le musée donc des œuvres du maître de Wa. Je passais devant elle tous les jours. Et puis un jour, illumination, un ami me dit « Mais tu devrais écrire un roman sur le maître de Wa. » Je dis « Mais oui, c'est ça quoi. » 1500, un maître anonyme, on ne connaît rien de lui, je peux lui prêter le destin que je veux, évidemment. Il a travaillé dans une ville fortifiée, en 1500, une ville fortifiée avec toute la symbolique que recouvre cela. Une ville fortifiée, c'est les remparts. Une ville, c'est comme un être humain, c'est une peau, ces remparts. On se protège, on peut vivre dans une ville fortifiée toute sa vie, sans audace, sans aller dehors, sans aller voir la vraie vie qui est dehors, quoi. On peut tourner en rond là-dedans à faire, je dirais, toujours plus la même chose, qui est un peu la définition de l'enfer, ça, hein, dans nos vies, de faire toujours plus la même chose. Et ce maître de Wa, donc ce sculpteur anonyme, sculpte dans cette ville fortifiée, à l'intérieur de ses remparts. Tout va bien, mais il ronronne un petit peu dans sa vie. Et puis un concurrent va, sur le terrain de l'art et de l'amour, rentrer en concurrence, justement, avec lui et bouleverser sa vie. D'un petit événement, sa vie va être complètement bouleversée et il va devoir sortir, aller à la recherche de lui-même et sortir de ses propres remparts pour aller voir qui il est. Et donc, il va traverser cette époque qui est le début de la Renaissance, hein, en 1500. Il va aller jusqu'à Metz, qui est une deuxième ville fortifiée, une deuxième peau qu'il va aller expérimenter. Et là, il va apprendre à travers l'art d'un archer ce qu'est une voie de connaissance, comme la calligraphie est une voie de connaissance, par exemple. À travers un art, de pouvoir se questionner pleinement et profondément.
Alors justement, vous venez de parler de la calligraphie, Luc Templier, et j'en profite pour vous demander ce qu'est la calligraphie pour vous. Vous avez parlé tout à l'heure de transformation. Est-ce que la calligraphie est une école de transformation ?
Oui. Oui, toutes les techniques exigeantes le sont. Je dirais que quelqu'un qui fait du piano, c'est aussi une école profonde de transformation. Parce que nécessairement, il y a des jours où l'on se heurte à ses limites. La calligraphie, c'est un art de l'instant. On ne peut pas le faire avec tout le poids du passé sur les épaules et toute cette espérance dans demain. Donc il faut lâcher tout ça et être là, ici et maintenant, pour emprunter le geste que l'on va faire avec, je dirais, un grand dépouillement. Voilà, une grande simplicité. Dès que vous commencez à être un petit peu pris par des soucis ou des choses comme ça, le trait n'est plus juste, le trait n'est plus fluide. Ce n'est plus aligné, vous n'êtes plus aligné avec ce que vous faites même. Donc la calligraphie, c'est un art de l'instant et vous vous heurtez nécessairement en traçant, puisque c'est un art exigeant, qui demande un tracé comme ça et pas comme ça. Donc c'est, par exemple, une lettre doit rentrer dans un carré, telle courbe doit être comme ceci, puis s'inverser comme cela, et puis le geste repart d'ici et vient terminer dans sa perfection là, mais pas là. Vous comprenez donc vraiment l'extrême précision et cette jouissance de rentrer dans cette précision pour après l'oublier. Une fois qu'on a maîtrisé la technique, on l'oublie et on acquiert une immense liberté là, dans cette maîtrise de la norme. C'est vrai pour le football, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de limite de terrain, il n'y a pas de jeu. Et c'est pareil avec la calligraphie. Donc il y a des règles qu'il est bon de connaître. Et quand on les connaît et qu'on les maîtrise, alors on peut aller plus loin. Alors, je dis bien, on peut aller plus loin. Parce qu'en créativité, dire à des gens, allez-y, faites comme vous voulez, faites ce que vous voulez, ça ne marche pas. Parce qu'on retombe toujours dans le, comme je disais tout à l'heure, faire toujours plus la même chose. On va aller dans ces stéréotypes et puis on va faire que les répéter. Et on va être désespéré. On va être désespéré parce qu'on refera toujours plus la même chose. Et la calligraphie, moi, dans mes stages que je donne, c'est donner des outils qui vont permettre d'aller plus loin que ces stéréotypes, d'aller voir hors les murs, derrière les remparts de ce que l'on sait faire. Ce qu'on sait faire, on sait qu'on sait le faire. Mais oser aller mettre un pas à l'extérieur de ce que l'on sait faire. Un pas à la fois. Je ne dis pas se bouleverser et se mettre sans dessus dessous et d'expérimenter des choses qu'on n'est pas capable de vivre sur le moment. Mais pas à pas, on peut aller vers un vrai changement. Et la calligraphie est une voie de connaissance.
Pour terminer, Luc Templier, vous avez eu beaucoup de compliments sur votre musée en Belgique, dont vous avez été conservateur. Parmi les compliments que l'on vous a fait, on vous a dit que vous avez voulu sortir le musée du musée. Quand je vous entends parler de la calligraphie, vous dites la même chose, aller au-delà. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous pousse encore à aller au-delà ?
Je reviendrai à ma réponse du début, c'est l'art. C'est cette, si j'ai une mission, je pense que c'est celle de transmettre au niveau de, justement, de l'art.
Mais de transmettre aussi quelque chose qui est de la forme d'une bienveillance. Vous avez, quand vous avez sorti votre livre sur les méditations, vous avez exprimé le souhait à vos lecteurs que ces méditations s'ancrent et qu'il y ait un ancrage de bienveillance.
Oui, je disais même qu'elles martèlent leur bienveillance, que les phrases martèlent leur bienveillance. Je pense qu'une phrase peut nous accompagner durablement pendant des années, parfois même d'ailleurs sans la comprendre. Et puis un jour vient où elle tombe dans les chaussures. On peut annoncer parfois des phrases, mais ce sont des citations. On a l'impression de les avoir compris, on n'a rien compris. Il faut les incarner. Ces 52 phrases, si une seule pouvait accompagner durablement quelqu'un et l'aider, ne serait-ce qu'un peu, ben j'aurais réussi mon pari de ce livre.
Pouvez-vous nous en donner une ?
Soyez patient.
Merci Luc Templier.